patria, patriarca, 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 patriarca.
Les miens, boucle beat, chaîne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur.
I wanna be a butch, I wanna be a butch, 'cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight lies and whores.
Et on se prend la main, et on se prend la main. Une fille en masculin, un garçon.
Dégenré, l'émission pour
déranger.
Une émission féministe.
Les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois.
De 18h30
à 20h.
Sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Salut. Vous êtes sur Dégenré, l'émission pour déranger, donc une émission féministe qui a lieu tous les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois. À la technique Nicolène, au studio moi-même, Mo. Alors à un moment donné, on changera. Je passerai à la technique et Nico sera au studio. Et ce soir, en invité, nous avons Penda. Penda, t'es arrivée il y a 15 jours à peu près de Dakar, sur Grenoble. Est-ce que tu veux te présenter ?
Oui, je m'appelle Penda Ndiaye, je suis sénégalaise, je suis une militante des droits humains et plus particulièrement une militante de la défense de la femme. Voilà, je vis dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Guédiawaye, qui est un nouveau département qui se trouve dans la banlieue. Je crois que, bon, j'ai pas à expliquer ce qu'est la banlieue. Bon, toutes les banlieues se ressemblent à un centime près. Donc, je suis habitant de la banlieue et j'ai toujours habité dans les quartiers chauds, comme on dit, dans des bidonvilles. Et actuellement, la situation commence à s'améliorer en ce qui concerne l'habitat, mais toujours c'est de l'habitation spontanée. Voilà.
Ok. Et tu es arrivée à Grenoble, donc il y a 12 jours. Et est-ce que c'est quoi qui t'a motivée à venir ici? Comment ça s'est passé, ce voyage? Et...
Bon, le voyage a été mouvementé, comme tout voyage. Bon. Et puis, j'ai été invitée par le conseil régional pour témoigner sur le rôle que joue la femme sénégalaise, la femme africaine et particulièrement la femme sénégalaise, en ce qui concerne maintenant le genre, l'égalité homme-femme, la position des femmes en tant qu'êtres humains, à part entière, et le combat qu'elles mènent dans leurs différents pays, et surtout dans le continent africain, sur le continent africain plutôt.
Ok. Eh ben, peut-être avant de se lancer dans des discussions, une petite pause musicale et on se retrouve après cette pause.
Ok.
Vous venez d'écouter Oumou Sangaré, qui est une grande chanteuse féministe malienne. Dans cette chanson Yalla, elle invite les jeunes d'Afrique à se bouger et à construire des choses par eux-mêmes et maintenant. Voilà.
Ok. Retour en studio avec Penda, donc ce soir notre invitée. Donc Penda, tu disais arriver de Dakar pour parler avec le conseil général isérois surtout. De la question du militantisme pour les droits fondamentaux et particulièrement les droits des femmes. Est-ce que tu peux expliquer concrètement comment ça se passe chez toi, que ce soit dans ton quartier ou au niveau de la ville, je sais pas comment tu agis, qu'est-ce que vous faites concrètement, comment vous vous organisez entre femmes, etc.
Voilà, d'abord, tout combat commence même devant toi, comme on dit en Afrique. Et alors, on a commencé notre lutte au sein même du quartier. On avait d'abord organisé une petite association qui nous permettait de cotiser. C'est communément ce qu'on appelle les tontunes. On a commencé par les tontunes. Finalement, on a vu que à partir des tontunes, on pouvait faire passer beaucoup de messages à travers ces tontunes-là. Alors qu'on a dit, pourquoi ne pas maintenant transformer la tontine en association. Donc on voulait être membre de l'association, les autres n'ont pas voulu, mais cela ne nous a pas empêché quand même de créer la petite association et de faire continuer la tontine.
Tu peux expliquer la tontine, ce que c'est à la base, au départ?
Bon, au départ, bon, comme nous vivions dans la banlieue, dans un quartier vraiment pauvre, On n'avait pas beaucoup de moyens. On s'était dit, tiens, pourquoi ne pas se retrouver tous les jeudis après-midi, de 16 jusqu'à 18 heures. Bon, chaque femme devait venir avec 100 francs CFA, c'est à peu près, je crois, 10 centimes ou quelque chose comme ça. Et avec un morceau de savon qui a l'équivalence de 10 centimes ou en tout cas autre chose, mais pas quand même. Ou avec un sachet de lessive, des choses comme ça qui permettaient à la femme d'avoir pendant au moins 3 ou 6 mois du savon et de la lessive. Et encore, un peu d'argent. Du coup, bon, quand on a commencé, ça a vraiment marché. Et au bout d'un an, on a pensé mettre en place l'association. Et d'aucuns étaient d'accord pour l'association, les autres voulaient continuer toujours avec la tontine, mais que la tontine prenne maintenant une autre forme, un autre format plutôt. C'est-à-dire, au lieu de venir avec des denrées, parce que bon, quand tu avais beaucoup de lessive, quand tu avais beaucoup de savon, ça prêtait au gaspillage. Donc on a dit, pourquoi ne pas maintenant organiser une tontine. Uniquement, on cotise de l'argent uniquement. Et à partir de cet argent maintenant, la femme pouvait peut-être se payer quelque chose ou bien même elle pouvait renforcer son commerce ou en tout cas elle pouvait vraiment investir avec l'argent qu'elle gagnait. Du coup, on a augmenté le montant, mais on a toujours maintenu les jeudis après-midi. Et juste, quand on arrive, il y a une pause récréative où on met de la musique, les femmes dansent, défoulent pendant au moins de 16 à 17 heures. Et on arrête la musique maintenant pour discuter de 17 heures maintenant à 18 heures, à 17h45, discuter, récupérer les cotisations et autres, et aborder un certain nombre de problèmes qui nous est vraiment intimes entre nous. Et maintenant, à 17h45, on remettait la musique parce qu'on voulait vraiment que les femmes rentrent chez elles, vraiment soulagées. Et à partir de là maintenant, les femmes qui étaient membres de l'association étaient les relais avec les différentes ONG qui étaient sur place, qui pouvaient nous encadrer, qui pouvaient nous appuyer ou nous former même sur les droits humains et comment maintenant la femme devait prendre sa place. Et du coup, on était entré en contact avec le RADI, qui est une ONG sous-régionale qui s'appelle le Réseau africain pour le développement intégré. Et là où ils avaient une cellule où on parlait vraiment des droits humains, l'encadrement, comment encadrer une petite association en faisant des causeries sur l'importance même des déclarations de naissance. Parce qu'en Afrique, bon, la déclaration d'une naissance, bon, c'était tout juste un bout de papier qu'on pouvait garder, on pouvait l'avoir ou ne pas l'avoir. Autant c'était ça. Et encore dans les quartiers populaires, les gens ne s'intéressaient plus aux pièces d'état civil parce que quand tu questionnais une femme, ils te disaient, bon, moi, je n'ai pas besoin de certificat de mariage dans la mesure où mon mari n'est pas fonctionnaire, mon mari n'est pas salarié, je ne peux pas toucher d'allocation familiale, alors que me sert le certificat de mariage ou que me sert la déclaration de naissance de mes enfants. Du coup, moi, je leur dis, mais il pourrait y arriver un jour que l'enfant aille à l'école. De la naissance jusqu'à 7 ans. À 7 ans, si l'enfant doit partir à l'école, il lui faut forcément un extrait de naissance. Et donc, si l'enfant n'est pas déclaré, c'est la croix et la bannière pour faire un jugement. Voilà. Il fallait un jugement. Et encore, il fallait écrire une lettre, aller à la mairie, chercher un certificat de non-inscription de naissance, aller au tribunal. Et là, il y a le président du tribunal qui te donne un jour d'audience. Tu viens avec les témoins, c'est ce qui ont vu naître l'enfant, avec les pièces. Parfois, ça pose énormément de difficultés parce qu'il y a même des adultes qui n'avaient pas de pièces d'identité. Donc, ils ne pouvaient pas témoigner. Et grâce au RADI, on a parvenu quand même, pendant 2 ans, à mettre en place une base très solide au niveau de mon quartier, où même il suffisait que tu rencontres une femme qui n'a jamais été à l'école parce que la sensibilisation se faisait en langue locale. Alors, quand tu lui disais, mais tu vas où? Il te dit, je vais à la mairie. Mais comment déclarer son enfant? Elle avait les aptitudes nécessaires pour au moins se déclarer. Et encore, à la base d'un certificat de mariage au Sénégal, tout individu peut déclarer l'enfant. Et ça, du coup, c'était une bonne chose. Les femmes commençaient maintenant à demander à leur mari qu'ils aient des certificats de mariage, qu'on déclare leurs enfants. Certes, il reste beaucoup de choses encore à faire sur ce plan-là, parce que jusqu'à présent, à chaque audience foraine, Il y a des enfants qui ne sont pas déclarés généralement. C'est des enfants que les pères n'ont pas voulu reconnaître à la naissance. Ça faisait mal d'aller à la mairie, de déclarer l'enfant. Et sur le bulletin de l'enfant, on marquait « père non déclarant ». Ça faisait mal. Et là aussi, au niveau du Sénégal, bon, les femmes se battent pour que la femme puisse déclarer uniquement son enfant. Et que sur l'extrait, on ne marque pas « père non déclarant ». Parce que c'est vraiment frustrant.
C'est-à-dire que la femme puisse être seule à déclarer
l'enfant.
Au niveau de l'état civil,
au niveau de l'état civil.
Okay.
Parce que la femme, à la naissance de l'enfant, peut déclarer son enfant. Mais à la place du père, on marque père non déclarant. Ce qui est frustrant, c'est le fait de marquer père non déclarant. Et ça fait extrêmement mal. Et généralement, bon, tu vois des élèves, bon, des jeunes, parce que jusqu'à 12 ans, ils ne savent pas si le père est déclarant ou pas. En tout cas, ils ont toujours un nom de famille, que ce soit le nom de la mère, d'un oncle ou d'un cousin. En tout cas, l'enfant a toujours une autre famille. Mais c'est à partir de 12 ans maintenant, au moment où il devra se présenter à l'examen maintenant, qu'il saura il est qui, il est exactement le fils de qui et de qui. Parce qu'en Afrique, un cousin, une cousine peut te donner son enfant. Et tu l'élèves et l'enfant t'appelle maman. C'est au moment où elle aura, parce que c'est une adoption tacite. Donc, il n'y a pas de papier, tu n'as pas de démarche judiciaire à faire. Donc, moi, j'appelle ça une adoption tacite. Et à partir de ce moment-là, à 12 ans maintenant, l'enfant sait lire et écrire. Et à partir de ce moment où il doit se présenter maintenant à l'entrée en 6e et au CFE, qui sait exactement si son père est déclarant ou si son père n'est pas déclarant. Ou si la personne
qui l'élève. Qui est sa mère biologique, par exemple.
Et si c'est la personne qui l'élève, si réellement c'est sa mère biologique, si il est avec ses propres parents. Voilà, ça se saura ce jour-là et ça fait extrêmement difficile. Parfois même, on demande aux femmes d'essayer de voir pour que l'enfant soit déclaré. Au moins qu'il ne sache pas que le père n'était pas déclarant. Ils arrivent maintenant avant 12 ans. Que quand même, les hommes prennent une certaine conscience pour revenir déclarer l'enfant. Généralement, c'est la famille qui ne veut pas. Généralement, c'est la mère même qui ne veut pas. Si c'est une mère, bon, assez intelligente, à partir de 6 ans maintenant, il commence à préparer son enfant. Et à 12 ans déjà, il sait beaucoup de choses sur sa naissance, sur ses origines et autres. Et là, ça ne pose pas de problème. Parce que moi, j'ai rencontré quelques jeunes où le père n'était pas déclarant. Mais cela ne les a pas offusqués du tout.
Tout à l'heure, tu parlais là au niveau des tontines de que vous étiez passé à un fonctionnement plus économique. Est-ce que tu as des exemples d'entraide concrète que vous avez fait déjà ensemble ou pour l'instant vous êtes que à mettre de l'argent en économie ensemble ou est-ce qu'il y a déjà eu en fait de l'entraide concrète, des projets?
De l'entraide concrète, c'est quoi par exactement? Qu'est-ce que tu entends par entraide concrète?
Je ne sais pas justement, est-ce qu'avec cet argent, vous avez pu à un moment donné se dire « Ok, on va prendre cet argent et aider une personne sur un projet ?»
Non mais chaque jeudi, une personne touche un montant bien déterminé.
Ok, chaque jeudi, il y a une
chaque jeudi, on cotise, le nombre de personnes cotise. Et maintenant, la cagnotte, on la donne à une personne.
Okay.
C'est sous forme de microcrédit.
Yep.
Moi, je dis chez nous, les tontines, c'est des microcrédits.
Okay.
Tant que tu cotises, tu ne payes pas d'intérêt, tu ne payes pas de pénalité. Mais au moment où tu viens en retard déjà, c'est une logique. On commence à 16 heures. Tu dois être là à 16 heures.
Okay.
À 16 heures, une minute, tu payes une amende. Et l'amende, maintenant, c'est en quelque sorte les pénalités ou les intérêts qu'on met dans une petite caisse.
C'est une bonne tactique.
Voilà, et ça permet
aux... On devrait faire ça à nos réunions.
Voilà, ça permet aux femmes d'être à l'heure.
Ok.
Ils arrivent aussi qu'elles soient en retard, mais pas beaucoup.
Donc, si je comprends bien, en fait, t'arrives, tu cotises, et à la fin de... Vous avez un temps de discussion à savoir à qui cet argent cotisé viendra à la fin de votre réunion. Et à la fin de votre réunion, une femme repart avec l'argent cotisé de votre séance. Ok.
C'est ça, ça se passe comme ça. Bon, au début, bon, on était 52. À la fin maintenant de la tontine, d'autres sont venus. Donc, la première femme qui touche, il est le numéro 1 sur la liste. Et on dresse une liste.
Ok.
Si maintenant toutes les femmes touchent,
Si on refait encore la tontine, elle sera toujours la numéro 1. Donc, numéro 1 jusqu'à 50 et ainsi de suite. Et tout au début, on avait commencé avec 52 personnes. Maintenant, on est 250 personnes. Parce que dans les entourages, bon, tous ceux qui entendent vraiment la tontine, ils sont intéressés et ils viennent.
Bien sûr.
Tu t'inscris en dernier lieu, tu touches en dernier lieu. Ça nous permet aussi de connaître parmi les gens avec qui on est, de pouvoir identifier si c'est des femmes correctes, qui respectent en tout cas le règlement intérieur même de la tontine, comment ça fonctionne, comment on fait. Voilà.
Yep. Eh ben, une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Toujours elle, toujours la même meuf. Zidé m'apporte en entre-thème sans tandem. C'est pour nos mères. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas d'yeux. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages, l'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages, l'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je persévère, même si gêne, retour en force pour dénoncer le sort choquant, cette femme enfoncée, femme rurale, au moral tabassé. Quel mordant pour son repos menacé, en fait pour elle. Point d'amour, une vie sans humour, souvent rejetée sans recours. Elle n'a pas de parole ni de secours, elle paraît égarée même dans sa propre cour. Pour elle, droit de femme n'est que discours. Au foyer, aucun effort pour la choyer, tout en noyé dans des corvées. Je ne peux baisser ma voix ni me taire sur ce que je vois. Check mon flow, mon cri de guerre. Non, je m'oppose contre un monde qui perd la foi et qui cause à cette femme des douleurs attisées pour un destin martyrisé. Femme rurale, traumatisée, ses sentiments anesthésiés. À la place de je t'aime, elle retrouve ses totems. Très souvent, beaucoup de blême. Quand sera-t-elle sans problème? Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages, l'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages, l'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Un appel à l'attention, toutes nos femmes du savoir, diplômées des honneurs, bien que sans pouvoir, vouloir c'est pouvoir. Le cas de la femme rurale mérite notre attention, faut qu'on réagisse avec plus d'action. Son évolution mérite réflexion, son éducation mérite expansion. Car elle est sans revenu, sans menu, ni tenu, parce que pas soutenue. Au grand de ce pays qui pavoie gaiement leur cœur extorqué, je pense qu'il vous reste une place où loge la pitié. Faites en sorte que leur dignité humaine ne soit plus confisquée par des mâles malades et mâles malins. Mal nourris, souvent mariés à fleur de puberté, son avenir n'est que trou noir. Fistuleuse, souvent divorcée, encore gamine, mère famille abandonnée, souvent morte pendant accouchement. Agir pendant qu'il est temps, microcosme, macrocosme. Toujours le même refrain, débile et lassant. Cette peine me donne la haine, toute la rage rejoint mes veines. Ces idées qui déchaînent, faut pas que ça traîne. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages, l'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages, l'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir, pour qu'il n'y ait pas désespoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer. L'espoir de celles qui n'ont pas d'espoir. Je suis la bouche de celles qui n'ont pas de bouche pour réclamer et dénoncer.
Je suis les yeux de celles qui n'ont pas Dieu. Dans cette vie pleine de virages, de mirages, de faux visages.
Vous venez d'écouter Zara Moussa, c'est une rappeuse nigérienne.
Ok, retour en studio, toujours avec Penda. Donc tout à l'heure, tu nous parlais des tontines. Et une autre question qui m'est venue quand tu expliquais comment ça fonctionnait, ce que c'était. À un moment donné, tu as parlé aussi qu'à l'intérieur de ce moment-là, que vous avez une fois par semaine, il y a aussi un temps de discussion, pas forcément sur l'organisation économique, etc. Et tu parlais justement de discussions autour de sujets intimes ou de sujets personnels. Ça tourne autour de quoi ? Ces discussions-là, est-ce que toi, tu arrives à repérer des sujets particulièrement évoqués ou qui sont des sujets qui sont durs ou au contraire faciles?
Bon, on retrouve les deux à la fois. Du coup, facile, dur, une femme battue, ça c'est extrêmement dur. Et généralement, ils te disent pendant les 15 minutes, vraiment, bon, Penda, est-ce que tu ne sais pas quelqu'un qui pourrait vraiment m'appuyer parce que moi, je suis tout le temps battue, je n'en peux plus, j'en ai ras le bol. Et là, à partir du coup, maintenant, où il y a des associations de lutte contre les violences faites aux femmes, moi, je deviens le relais.
Avec ces associations.
De la femme battue vers, maintenant, l'association qui lutte contre les violences faites aux femmes. D'abord, je leur permets de parler. Et ensuite, maintenant, de leur donner un temps de réflexion, c'est-à-dire de leur donner rendez-vous le lendemain matin, pour que je puisse, pendant la nuit maintenant, téléphoner à la responsable, qui doit forcément nous recevoir, ou même au sein du radis. Il y a des parajuristes qui sont là pour ça. Et du moment que je prends rendez-vous maintenant, j'appelle la femme. On va maintenant, que ce soit au niveau du réseau Sigil Digène ou au niveau de WILDAF, qui sont des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. C'est des associations de femmes juristes qui comprennent comment on se prend vraiment, comment rédiger une plainte et autres.
D'accord, donc ils sont sur le cadre juridique.
Sur le cadre juridique. Okay. Et après maintenant, une fois maintenant, on permet à la femme d'expliquer. Si ça nécessite maintenant un certificat de mariage, et on commence maintenant le branle-bas. En allant voir d'abord un médecin et aussi au niveau du WILDAF, ils avaient organisé une séance de sensibilisation et de formation où on sensibilisait d'abord les chefs coutumiers, les notables, les chefs de quartier, les policiers, les gendarmes, les médecins sur la cause même très sensible des femmes battues. Alors, une femme déjà, quand elle est battue ou violentée, quand elle se présente devant un médecin, que le médecin ne se voit pas comme un homme, mais qu'il se voit tout simplement comme un médecin qui a une patiente devant lui et qui lui permet le temps de l'examiner et d'écrire réellement ce qu'il a vu ou en tout cas les dégâts causés et de lui faire un bon certificat médical.
Donc sans jugement, sans jugement. A priori.
Justement. Et là, où, encore dans la formation que j'ai reçue, moi, on me demande de bien écouter et de ne pas juger. Moi, je n'ai pas le droit de juger. J'écoute et à partir maintenant de la discussion, je sais si je dois m'adresser directement au RADI, au WILDAF ou au réseau Sigil Digène.
C'est quoi ce réseau?
Ce réseau, le RADI, c'est on a commencé à travailler avec le RADI qui nous a vraiment formés sur beaucoup de choses sur le plan juridique, très terre à terre. Donc, on nous appelle des parajuristes relais.
Ok.
Nous sommes les relais entre les vrais parajuristes et les vrais parajuristes sont les relais entre les juristes. Parce que on a des notions de droit. On sait que la loi ne permet pas de battre une femme. Là, c'est une notion toute simple. Que je maîtrise moi et une femme. Quand une femme est battue, quand elle vient me voir, je l'écoute d'abord, je l'accompagne vers la parajuriste. Et du coup, c'est la parajuriste maintenant qui l'écoute une deuxième fois. Si elle a besoin de porter plainte, qu'on rédige la plainte. Et à partir de là, maintenant, une fois la plainte rédigée, il faut vraiment une pièce justificative. C'est du coup, à partir de ce moment-là, qu'on doit voir un médecin, ainsi de suite. Et à partir maintenant de la rédaction de la plainte et le temps de voir le médecin, la femme peut, bon,
par biais de plusieurs médiations, vont décider de retirer sa plainte. Ça arrive souvent. Par contre, il y a des femmes extrêmement courageuses qui mènent le combat jusqu'au bout. Le problème maintenant, c'est pendant quand c'est une femme vraiment brave qui va mener son combat jusqu'au bout. Le problème qui se pose, c'est qu'il ne peut pas être, s'il était dans la maison de son mari, il ne peut plus être dans la maison de son mari.
Alors justement, comment ça se passe? Est-ce qu'aussi, dans votre quartier, vous avez aussi des relais d'accueil, par exemple, pour des femmes qui ont besoin de s'éloigner de leur mari ou de leur famille? Est-ce que vous avez ça?
Notre grand combat maintenant, c'est de chercher un relais où les femmes puissent se retrouver. Peut-être dans les quartiers, c'est extrêmement difficile. Mais même si au niveau régional ou au niveau départemental, on avait ce relais-là, ça nous faciliterait beaucoup la chose. Parce que au sein même de ce relais, ça nous permettrait au moins de former ces femmes, de leur trouver un petit métier. Et au sortir maintenant de cette phase, elles pourront avoir un petit métier, peut-être apprendre à coudre, à crocheter ou à faire autre chose. Et là, avoir une indépendance financière. Ce qui leur permettrait vraiment de se réinsérer dans la société beaucoup plus facilement.
Et puis de s'éloigner des violences conjugales, surtout, et s'éloigner de personnes qui ont du pouvoir sur elles.
Et généralement aussi, cette domination peut être entre femmes et femmes. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Là aussi, on a tendance toujours à nous taxer de féministes, de ne pas voir maintenant les choses, mais si aussi entre nos femmes aussi, on dit que on voit qu'il n'y a pas des choses tout à fait clean.
Oui, qu'il y a de la violence aussi.
Qu'il y a de la violence aussi entre nous, surtout la violence verbale, morale et autres. Mais il va falloir aussi lutter sur les deux fronts.
Ouais. OK. C'est parti pour une autre musique du continent africain.
On va écouter Mariam Makeba, qui est une chanteuse d'Afrique du Sud. Et ça, c'est une chanson qu'elle a écrite quand elle est retournée dans son pays, parce qu'elle était réfugiée politique pour avoir lutté contre l'apartheid. Et en 95, je crois, elle a pu revenir dans son pays. Elle a écrit cette chanson qui parle de l'amour pour son pays.
Thank you.
Yep, Penda. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure de Tontine comme expérience de solidarité entre femmes. Est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres formes de solidarité, comment toi tu t'impliques aussi, peut-être sur d'autres collectifs, ou est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu peux nous parler?
Mais la solidarité, elle est quotidienne chez nous en tant qu'Africaine. Même en se regroupant autour d'une table, en discutant, c'est de la solidarité. Le fait d'avoir un temps d'écoute, le fait de pouvoir écouter son prochain,
oui.
C'est une forme de solidarité.
Mais
parce que ça lui permet de se soulager un tout petit peu, et à partir de cette discussion-là, tu es censé lui montrer des opportunités qui peuvent lui permettre de sortir de cette situation-là. Et du coup, moi, je suis membre de beaucoup de réseaux qui permettent à la femme de s'épanouir pleinement. Quand je parle de la femme, d'aucuns disent, bon, les hommes avec un grand H, mais moi, je préfère parler des femmes avec un grand F. Parce que si la femme est sensibilisée, si la femme est éduquée, si la femme est formée, ça veut dire que toute la nation est formée, toute la nation a les bons principes. C'est pourquoi moi j'insiste sur la femme avec un grand F.
Et est-ce que toi tu te définis comme féministe? Est-ce qu'aussi par rapport à ce terme-là, est-ce qu'il a une place dans ton quartier? Est-ce que vous êtes plusieurs à vous identifier et à vous positionner publiquement comme féministe ou pas du tout?
Bon, si être féministe c'est vraiment défendre la femme et les enfants, les faibles, moi je suis féministe jusqu'au bout des ongles. Et encore, il y en a beaucoup d'autres femmes qui sont comme moi. C'est maintenant le contenu qu'on met dans le concept même féministe.
En tout cas, ce n'est pas une revendication. Les collectifs dans lesquels tu es, ce ne sont pas des collectifs qui se revendiquent, qui veulent positionner le fait que nous sommes féministes, etc. Ce n'est pas un truc vraiment revendiqué comme tel.
Bon, mais moi, je crois que le fait... Comment on peut revendiquer le fait d'être féministe? On est féministe? On est féministe parce qu'on est des femmes. On défend la position même de la femme.
Oui, mais en même temps, tu vois, il y a des femmes qui justement tiennent à dire je ne suis pas féministe. C'est pour ça que je te pose cette question. Moi, j'ai rencontré des femmes qui disent non, moi je suis pas féministe, non, alors qu'elles ont des sensibilités, des solidarités quotidiennes, actives, etc. Mais dans ce truc de féministe, il y a aussi ce truc d'un engagement politique, et que souvent ça fait peur, et qu'il y a souvent des femmes aussi qui disent non, moi Yachi, je suis pas féministe. C'est pour ça que
moi je me dis toujours, c'est bon, on est féministe, on n'est pas féministe, mais on est femme. Donc forcément on est féministe, même si on ne le reconnaît pas. Mais intérieurement on est féministe parce que toute femme est prête à aider son prochain en tant que femme. Et encore, bon, le fait de dire je suis ou je ne suis pas, c'est le contenu même qu'on met dans la définition de féministe.
Oui, puis il y a plusieurs cultures féministes, comme il y a plusieurs pratiques.
Voilà, tout ça, surtout, quoi. C'est ça, mais toute femme est féministe d'abord, qu'il le reconnaît ou non.
Ok.
Moi, je l'entends comme ça.
Ouais.
Et encore, parfois, c'est comme moi, appartenir à un parti politique, appartenir à une religion. Donc, on a le courage de dire, moi, je suis, et d'autres ne le disent pas. Mais il la pratique.
Oui, j'entends.
C'est une question de peut-être de principe ou d'ouverture. Bon, moi, partout où je suis, je dis je suis musulmane, pratiquante, croyante et autre. Et donc, on ne le disent pas. Et pourtant, c'est de bonnes musulmanes, de bonnes pratiquantes. Il suffit de l'affirmer d'une manière verbale ou bien de l'affirmer d'une manière consciencieuse. Mais la même chose est qu'on reconnaît qu'on est. Voilà. Beaucoup de femmes ne veulent pas s'engager. C'est comme le fait de dire j'appartiens à tel parti politique ou à autre chose. Mais toujours, lors des élections, quand on dit je ne suis pas militante de tel parti, mais je suis sympathisant de tel parti. Entre être militant et être sympathisant, est-ce qu'il y a réellement une grande différence? Parce que la plupart du temps, les sympathisants sont beaucoup plus nombreux que les véritables militants qui sont sur le terrain. Donc, Et du coup, c'est ce qu'ils se reconnaissent comme des féministes, qui l'affirment, qui se battent. Elles sont toujours soutenues par d'autres femmes. Elles sont toujours soutenues par d'autres femmes. Qui se disent, oui, moi, je ne suis pas féministe. Mais s'il faut peut-être marcher.
Et je marche.
Elles marcheront. S'il faut défendre l'avortement, elles le feront. Mais dans l'anonymat, dans la masse. C'est pourquoi il faut toujours qu'il y ait une équipe qui avance et les autres suivent. Moi, je dis que, bon, ceux qui ne se reconnaissent pas comme des militantes féministes, c'est des femmes qui ne veulent pas s'engager politiquement, avoir des responsabilités, être tout le temps entre des conférences, entre des voyages et autres. Elles veulent défendre plutôt ce féminisme-là, peut-être au sein de leur famille, au sein de leur quartier,
dans des pratiques quotidiennes,
à une échelle beaucoup plus petite.
Mais et importante aussi.
Importante aussi, mais comme on est, quand on est femme, on est forcément féministe, parce qu'on a tout d'une féministe. Et ce que je déplore surtout, c'est que même dans ce milieu militant de féministes, il y a beaucoup de femmes, pour pouvoir s'affirmer, ils se comportent comme des hommes. J'ai dit, pour être une vraie féministe, il faut que la femme soit vraiment femme. Dans tous les sens du terme. Agir comme une femme, parler comme une femme, avoir l'allure d'une femme et de pouvoir défendre réellement la femme.
Ouais, et en même temps, tu peux décider aussi de prendre des codes dits masculins, dans le sens où il n'y a rien... dans ce truc, tu sais que voilà, il y a rien de naturel dans le fait de se dire tiens, j'ai envie de m'habiller de telle manière, ou j'ai envie de parler de telle manière, ou j'ai envie de prendre telle position dans la société. Tu peux décider, alors qu'en effet, tu as été identifié à l'état civil comme le sexe féminin, de prendre des codes dits masculins parce qu'ils te facilitent la vie. Parce que monter dans un arbre avec des talons, ben c'est quand même moins facile que monter dans un arbre avec des baskets. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et toujours aussi ce truc sur, à un moment donné, les hommes sont facilités aussi dans la prise de place, la confiance en eux, etc., puisqu'ils ne sont pas soit infériorisés, insultés, parce que ce ne sont pas des personnes que l'on va violenter de par leurs conditions, etc. Et que du coup, moi, je peux me dire, à un moment donné, j'ai aussi envie de prendre des codes de parole, d'expression, qui me permettent de me positionner en ayant confiance en moi, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, en même temps...
D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais, à force de prendre des codes masculins, est-ce que finalement, on ne devient pas, entre guillemets, macho? Parce qu'en voulant se comporter toujours, en prenant toujours des codes masculins, si ça devient une habitude, moi, je me dis, je n'ai rien contre une femme qui s'habille en pantalon. Parce que si l'occasion se présente, moi je le fais.
Oui, et puis que c'est
je trouve que c'est plus pratique.
Oui, c'est
ainsi de suite. Porter des baskets. Ici en France, quand il fait extrêmement froid, c'est bien.
C'est plus pratique.
C'est plus pratique. Voilà, après, je suis d'accord sur ces trucs pratiques, d'accord. Mais si on avance plus loin quand même, on voit des femmes qui, pour pouvoir s'affirmer, en prenant ces codes masculins, sont obligées de déformer un peu leur voix pour avoir une voix rauque. Parfois de déformer même leur démarche. J'ai dit ça, c'est trop. Si on veut vraiment défendre le féminisme, il faudrait qu'on s'habille, qu'on prend des codes masculins qui nous permettent d'avancer dans notre combat, mais quand même que ça ne devienne pas une routine, que ça ne nous transforme pas. Parce que finalement, on est entre le marteau et l'enclume, on n'est plus des féministes à part entière. On n'est plus aussi des hommes parce qu'on a trop pris sur leur corps. Et finalement, ça pose des problèmes.
Perso, par exemple, je sais que je m'approprie des codes masculins qui, en effet, me sont plus pratiques, me facilitent la vie, en fait. Parce que clairement, il y a beaucoup de codes masculins qui sont beaucoup plus facilitants dans cette société. Par contre, clairement, je ne veux pas devenir un homme en tant que classe sociale, quoi. C'est-à-dire que je ne veux pas, pour autant, avoir des attitudes qui discrimine et ou qui violente d'autres individus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je ne me considère pas devenir un homme au niveau politique, quoi, hein, dans leur construction de mec, etc., alors que pourtant, je décide en effet d'avoir et de prendre des comportements ou des codes dits masculins qui me facilite la vie, que je trouve beaucoup plus épanouissant, qui me renforce dans ma tête, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ça ne veut pas dire que je vais devenir un homme, en fait, ou que je vais prendre du pouvoir sur les autres, etc. Mais je vais prendre du pouvoir sur moi-même avec les codes que je me reconnais, qui me plaisent dans cette société, que ce soit des codes dits masculins ou dits féminins, ou dits indigènes, ou dits autres, tout ce qu'on veut, en fait. Des codes qui me permettent de m'approprier, en fait, des trucs qui me font du bien, qui ont du sens pour moi.
Ce que je veux dire par là, c'est, bon, en prenant les codes qui nous permettent d'être à l'aise dans la société et de pouvoir nous affirmer, c'est bien, mais il ne faudrait pas en abuser.
Oui, ou devenir des gros salauds.
Ou bien maintenant, bon, parce que je crois que même biologiquement, on a beau prendre des codes masculins, on ne peut pas devenir des masculins. Mais si vraiment, en prenant ces codes, à un moment donné, ces codes nous permettent de devenir des machos, d'être vraiment plus durs que les hommes, ça ne vaut pas la peine.
Oui, je n'ai pas envie d'être un macho.
Voilà, c'est surtout ça. Et à chaque fois, moi, je dis aux gens de faire très attention sur ce, dans ce domaine-là.
Ouais. OK, et ben alors, nouvelle petite pause musicale. Et puis après, on va changer. Je vais passer à la technique. Nico va venir avec toi, Penda, pour continuer à tchatcher. Et je te remercie.
Merci, tout le plaisir.
On va écouter une nouvelle chanson de Oumou Sangaré. Cette chanson, ça s'appelle Dougou Kalamemba, et c'est une chanson où elle critique ouvertement la pratique de la polygamie. C'est sa première critique ouverte de la polygamie au Mali.
Pepe mo balu se te muso esa.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Ce soir, sur Dégenré, on est avec Penda, qui est une amie militante féministe du Sénégal. Et c'est Nicolène, maintenant, avec Penda en studio. Moi, je voulais déjà dire que je suis très contente de faire cette émission avec Penda, parce que l'année dernière, on avait essayé de faire une interview et le MD n'avait pas marché. Et moi, c'était une discussion qui m'avait beaucoup marquée, beaucoup apportée dans mon militantisme féministe. Du coup, je vais reposer des questions qu'on avait déjà posées l'année dernière. Désolée pour Penda.
Oui.
Ouais, l'année dernière, tu nous avais parlé que entre femmes, vous aviez fait des groupes de discussion qui vous aidaient à prendre conscience de votre condition commune et à vous exprimer. Est-ce que tu peux me parler de ça un peu ?
Et du coup, bon, on a pris conscience qu'entre femmes, on pouvait se dire beaucoup de choses. Mais le blocage se trouvait maintenant quand il fallait sortir du cercle même des femmes pour pouvoir s'exprimer ailleurs. Ça, c'était extrêmement difficile. Mais comme on a constitué maintenant des groupes de femmes, de petites associations de femmes, et qu'on pouvait maintenant discuter entre nous finalement... Quand beaucoup de femmes étaient sûres maintenant de pouvoir jouer leur rôle pleinement, alors on a commencé maintenant à intégrer des associations mixtes. Et à partir de là, on est parvenu à s'imposer au niveau des ASC, des associations socioculturelles et sportives. On voit maintenant des femmes qui prennent des postes de responsabilité dans beaucoup d'associations où c'était vraiment des associations uniquement réservées pour les garçons. Les femmes maintenant commencent à intégrer. Donc, à montrer leur existence en tant que femme, en tant que féministe, et de pouvoir les défendre sur tous les milieux. Ça, c'est à partir de ces petites organisations qu'on a parvenu à le faire. Et encore, ce qui est très important, c'est qu'actuellement, les femmes sont à toutes les échelles sociopolitiques. Au niveau du Sénégal. Et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui paraissait un peu utopique il y a de cela, 15 ou 10 ans, on voyait de rares femmes, et déjà ces femmes même étaient tellement diabolisées parce qu'elles n'étaient pas assez nombreuses sur le terrain. Mais actuellement, elles sont assez nombreuses, elles occupent l'espace politique, l'espace économique, et on ne peut plus parler maintenant au Sénégal, que ce soit dans les associations ou même sur le plan politique, sans pour autant avoir les femmes avec. Parce que le Sénégal, quand même, la population des femmes représente un pourcentage de 52%. Je crois qu'avec 52%, on ne peut pas faire grand-chose dans ce pays sans les impliquer. Et du coup, maintenant, ça a poussé les femmes plutôt à s'informer pour pouvoir sensibiliser davantage les questions sensibles comme les droits de la femme, comment maintenant secourir leurs sœurs qui sont violentées dans leur ménage ou même dans la rue, parce que la violence, elle est partout. Et donc, il faut maintenant qu'il y ait des réseaux de solidarité qui se développent entre femmes pour venir au secours des autres. Et ce courage-là, maintenant, toutes les femmes sénégalaises l'ont et s'organisent, que ce soit au village, dans la banlieue, en ville, dans le milieu des intellectuels, bon, des femmes alphabétisées ou non alphabétisées dans les villages, en tout cas. Partout, la femme est consciente de son rôle et de la position qu'elle doit prendre dans la société.
Et toi, tu as beaucoup milité dans des associations d'alphabétisation aussi des femmes, non?
Bon, j'ai pas beaucoup milité dans des associations d'alphabétisation parce que, bon, moi, je me dis si être alphabétisé dans sa langue locale ou maternelle nous permet d'aller de l'avant, je suis d'accord. Mais si c'est tout juste nos alphabétiser pour qu'on puisse écrire, lire et écrire dans nos langues uniquement, moi, je me dis que ça pose un problème. Et je ne suis pas pour. Et je vais vous donner un exemple très concret. Au Sénégal, il y a au minimum 12 langues locales codifiées. Imaginez autour d'une table 12 femmes qui se regroupent, qui n'ont jamais quitté leur terroir, qui n'ont jamais entendu une autre langue que leur langue locale, formées dans cette langue, sachant lire et écrire dans cette langue, et ils se regroupent autour d'une table pour discuter. Je crois que là-bas, il n'y aura pas de discussion ou ce sera un dialogue de sourds. Personne ne va pas se comprendre. Et encore, au moment où on est au 21e siècle et qu'on dit que le monde est un village planétaire, dans un village planétaire, il faut pouvoir se déplacer librement et pouvoir communiquer. Et si maintenant tu ne peux pas communiquer, ça va poser des problèmes. C'est pourquoi moi, je suis contre l'alphabétisation des langues locales. Si on pouvait être alphabétisé en français, ce serait une bonne chose. Ou même en anglais, en espagnol, parce que, bon, le continent a été colonisé. En tout cas, qu'on puisse alphabétiser les femmes dans les langues officielles de leur pays, qui leur permettent de comprendre beaucoup de choses et de pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement. C'est ça, moi, mon combat. Et au sein de mon réseau, on n'a jamais eu de classe d'alphabétisation vraiment de langue locale parce que les femmes ne sont même pas pour. Et si maintenant, il nous faut du relais, il faudrait que les femmes puissent s'exprimer en français. Si moi, je n'avais pas eu la chance d'être alphabétisée en français, je crois qu'on ne pourrait pas avoir ce débat-là actuellement parce qu'on ne pourrait pas se comprendre. Et le militantisme aussi, c'est de pouvoir communiquer.
Ouais, c'est sûr.
Ouais.
En fait, moi, ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est que ton militantisme féministe passe beaucoup par le fait que les femmes aient les outils pour s'imposer dans la société, quoi, pour prendre leur place dans la société. C'est ça?
Oui, c'est ça, mais parce que moi, je me dis, une personne qui ne sait pas ne peut pas s'imposer. Une personne qui ne connaît pas ses droits, ne peut pas les revendiquer. Il ne sait même pas si, bon, on a outrepassé ses droits ou quoi. Donc, dans tout combat, il faut d'abord sensibiliser la personne, la former, pour qu'elle puisse savoir et pouvoir informer. Et qu'il y ait tout le temps des relais. Et ça, sans le savoir, les femmes ne peuvent pas le savoir. Donc, le premier combat, c'est que tout le monde sache lire et écrire. Et à partir de là maintenant, que je sois là ou que je ne sois pas là, que la structure continue. Et malheureusement, dans notre petite association, c'est ceux qui ont eu la chance, qui ont toujours les postes clés, qui sont des présidents, des secrétaires, des trésoriers et autres. Mmh. Et même les commissaires aux comptes qui ne sont même pas membres de bureau, il faut qu'ils sachent lire. Pour pouvoir lire dans les comptes.
Oui.
Et quand on prend le pourcentage de 52%, et qu'encore sur ce pourcentage, ceux qui savent lire et écrire représentent la minorité. Et mais on voit tout le temps les mêmes personnes à la même place, qui parlent à la place des autres. Et peut-être ces mêmes personnes ne disent même pas ce que veut réellement la base. Parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise de discuter de militantisme féminin, que quelqu'un qui est à côté de moi peut-être puisse traduire.
Ouais.
Puisse traduire. Parce que tout interprète n'est pas quand même fidèle.
Ouais. C'est toujours mieux de pouvoir s'exprimer par
voilà,
soi-même.
Parce que c'est mieux de pouvoir s'exprimer plutôt que d'avoir toujours un interprète à côté de toi.
Mm.
Et encore, ça pose énormément de problèmes. Est-ce que, bon, actuellement, si je devais parler en Wolof, est-ce que, bon, je trouverais vraiment quelqu'un à côté de moi qui pourrait vraiment traduire vos questions, traduire mes réponses, ainsi de suite. Et ça prend énormément de problèmes. Et comme on dit, time is money, il faut forcément que les gens puissent communiquer pour qu'on puisse aller rapidement dans des choses beaucoup plus intéressantes.
Hmm. On va écouter un morceau de musique et puis...
Alors là, ce serait Salem Tradition, AC. Est-ce que tu peux en parler plus, Nico, du contenu de cette musique?
Ouais, Salem Tradition, en fait, c'est un groupe un groupe de Maloya, donc de La Réunion. C'est un groupe qui a des paroles très engagées et la chanteuse... de ce groupe est une chanteuse féministe qui a des textes sur l'esclavage, sur la condition des femmes. Et AC, c'est un texte qui demande aux femmes d'arrêter de supporter tout ce qu'elles endurent et dire assez de supporter tout ça, il faut se relever et affronter la vie.
À ça où TV, dans dit où la barré, dans pont la laine, et qu'un poignet douleur. Il remercie mon Dieu, sans où m'y gagne soigné, m'y lac pas le cœur, m'y supporte mon douleur. À ça où TV, dans dit où la barré, et qu'un poignet doublé. Ami, merci bon Dieu, sans où m'y gagne soigné. M'y lac pas le cœur, m'y si pas de mon douleur.
jusqu'à tu veux pilanguer. On tu va regretter, car qu'il pi bon Dieu, te n'aura pour payer, il a pi pour garder à toi.
Benda, moi j'avais envie de te poser une question, c'est comment en fait tu es devenue aussi militante ? Parce que quand on t'entend parler, on a l'impression que ça fait très longtemps que tu milites et que tu fais vraiment plein de choses différentes. Et du coup, moi je me disais comment t'as pris conscience des choses et comment t'es devenue militante ?
Moi j'ai commencé à militer très jeune, parce qu'en me présentant d'abord, j'ai dit que j'habitais dans les bidonvilles. Et là, c'était la loi de la jungle. C'était la loi. J'habitais. Bon, en me présentant, j'ai dit que j'habitais dans des bidonvilles, étant toute jeune. Et ça, c'était la loi de la jungle. Où tu te battais pour survivre, où tu baissais les bras, et tu mourais. Alors, du coup, à partir maintenant de cette situation, j'ai commencé à me battre. Et encore, j'avais une grand-mère très active qui me disait qu'il n'y avait pas une différence entre un homme et une femme. On était constitués de la même manière. Donc, on devait réussir comme les hommes devaient réussir. Donc, ça m'a motivé. Et encore, à chaque fois encore, parce que ma vie a été marquée par des femmes. La seconde femme, c'était ma mère, qui me disait que pour réussir dans la vie, il faut savoir se battre, il faut savoir s'imposer. Et comme on dit chez nous, le pain se noue avec les deux mains et le pantalon aussi se met avec les deux mains. Donc, il n'y a pas de différence. Il faut se battre, il faut réussir dans la vie, comme le disait toujours ma grand-mère. Et du coup, elle me disait, si moi je suis extrêmement fatiguée, c'est parce que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Et maintenant, toi, va à l'école, fais le maximum pour pouvoir réussir dans la vie. Fais le maximum pour pouvoir aider ceux qui sont faibles, ceux qui sont démunis. Et à partir maintenant de ces deux femmes qui m'ont marqué, et du coup, du côté paternel aussi, j'avais une grand-mère qui s'imposait, qui savait, de par la morale, montrer aux autres qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Une femme devait réussir, un homme devait réussir. Et du coup aussi, du côté paternel, là, bon, mes tantes paternelles, mes oncles, ils ont eu tous la chance d'aller à l'école, ils ont eu tous la chance d'être parmi les premiers salariés. Après l'indépendance, c'était des instituts, c'était des policiers. Donc, du coup, ça m'a motivé, ça m'a permis aussi de m'affirmer. Donc, ma vie a été formée par deux sortes, deux femmes, quand je dis deux femmes, mes deux grand-mères. Bon, plus ma mère, et à partir du coup, c'était toujours des braves femmes qui savaient s'imposer, qui savaient dire ce qu'il fallait à la place qu'il fallait. Et moi, très jeune, j'ai continué sur cette lancée. Donc, j'ai commencé à militer très très jeune, on peut dire même à partir de 8 ans. Bon, j'ai passé dans beaucoup d'associations, je suis passé par les partis politiques, je suis passé par le mouvement des pionniers, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, je prenais toujours des échelons pour pouvoir aller de l'avant, et encore pour pouvoir m'informer davantage, pour pouvoir informer mes sœurs sur la conscience même que les femmes doivent prendre et leur position dans la société. Parce que si une femme connaît, si une femme peut s'informer, si une femme est formée, elle peut informer, elle peut former. Parce qu'en Afrique, l'éducation même des enfants revient à la femme. Et ça lui donne du coup une force très importante.
Mmh. Mais justement, entre l'éducation des enfants et puis travailler pour survivre, pour vivre, est-ce que, comment toi t'expliques que t'arrives à trouver le temps de militer en plus de tout ça? Parce que, enfin, en France, par exemple, souvent, moi j'ai l'impression que des femmes ou des hommes ne militent pas parce qu'ils manquent de temps dans leur vie pour... parce qu'ils sont dans la survie, quoi.
Mais si c'est en France que les gens sont dans la survie, à plus forte raison chez nous en Afrique. Mmh. Mais il faut savoir s'organiser. Il faut savoir organiser son temps. Il faut savoir définir les priorités. Et du coup, on a largement le temps de faire tout ce que l'on veut. Parce que compte tenu maintenant de cette situation de survie, de précarité quand même, les gens, ils prennent la peine de se divertir, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de se promener dans les parcs et autres. Et ça pouvait représenter peut-être une rencontre médicale, militante, une discussion, plein de choses qu'on peut faire sur ce plan-là. Et encore, aller à une réunion militante une semaine ou tous les 15 jours, bon, je crois que quand même ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne nous empêche pas de vivre. Il suffit tout juste de savoir choisir ses priorités et d'avancer dans la vie.
Tout à l'heure, tu disais quelque chose. Tu disais que tu es musulmane. Et en France, ou en tout cas dans les médias occidentaux, souvent, les masses médias opposent la religion musulmane au féminisme. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça?
Mais moi, je crois que, bon, parmi les religions révélées, la religion musulmane considère la mieux la femme. Ça, c'est sûr. Parce que si les hommes musulmans faisaient ce que leur dictait le Coran, sincèrement, la femme musulmane était au paradis. Et encore, la religion ne nous empêche pas de travailler. La religion ne nous empêche pas de sortir. La religion nous demande tout simplement d'être habillé décemment, tout simplement, et de pouvoir se comprendre. C'est l'interprétation que je donne à ça. Même si on n'est pas musulman, même si on n'est pas chrétien, quand on vit avec un copain, un mari, mais on est obligé de lui dire le matin, bonjour, bon, je vais au boulot, et pendant la journée, si tu as un empêchement, de lui passer un coup de fil pour lui dire, voilà, j'ai un empêchement, j'ai un imprévu, je ne pourrai pas rentrer peut-être vers 17h, mais je serai à la maison vers 18h. C'est une forme de compréhension, c'est une forme de pouvoir s'organiser au niveau de la maison et au niveau même du village. Et encore sur le plan de la constitution, les hommes sont beaucoup plus costauds. Et donc tout ce qui était travail vraiment très très dur revenait aux hommes. C'est ça, sinon c'est la religion qui ménage la femme la bien. Et maintenant c'est à la femme d'aller apprendre le Coran, de pouvoir encore revoir les textes et voir maintenant le rôle que lui donne la religion musulmane. Moi, je crois que la religion musulmane, j'en suis sûr, je ne dis pas que je crois, que la religion musulmane ne contraint pas la femme. Ça, c'est sûr. Et du coup, je crois qu'au niveau du Sénégal ou dans l'Afrique de l'Ouest que je connais la mienne, il y a beaucoup de féministes musulmanes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfrein. Généralement, même je trouve dans des rencontres internationales où bon, un monsieur, un bon musulman se lève en apportant des versets de Coran ou des hadiths et autres pour dire vraiment ça. Mais ça, c'est ce qui lui plaît. C'est comme au niveau du christianisme aussi. Bon, on peut dire, bon, quelqu'un peut se lever en disant, en tout cas, le christianisme a dit sur la femme telle et telle et telle. Si il s'y trouve vraiment son compte. C'est de là maintenant que les femmes doivent apporter la réplique. Pour pouvoir apporter une bonne réplique, il faut d'abord faire des recherches, s'informer et pouvoir dire le contraire. Quand un monsieur musulman dit, bon, la religion musulmane dit ceci sur la femme, que la femme soit maintenant prompte à répondre en disant, c'est vrai, mais dans le Coran, il y a un verset, il y a un hadith qui met en valeur la femme. Si on ne sait pas, on ne peut pas.
Et est-ce que pour toi, la foi, ça t'aide dans ton militantisme? Ou est-ce que Est-ce que, parce que souvent, j'ai discuté avec des amis musulmanes et qui disaient que leur foi, ça leur donnait de la force ou du courage pour continuer à militer, pour se battre contre l'injustice.
Moi, bon, ma foi me permet d'aller de l'avant. Et je suis fière d'avoir une foi très forte. Parce que là où je vais, j'ai mon tapis, j'ai mon châle, j'ai mon chapelet. Et ça me permet de méditer. Et quand je suis dans une situation très confuse, il m'arrive de me lever à 2h ou à 3h du matin, de faire mes ablutions, de prier et de tendre la main au bon Dieu en lui disant de m'éclairer. Et le lendemain matin, je trouve une voie toute juste, toute nette, toute claire qui me permet d'avancer. Et du coup, je me dis, si tous les citoyens du monde avaient une foi, il y aurait moins de problèmes que ce qu'on a eu actuellement. Et l'éducation religieuse, quelle que soit l'éducation, quelle que soit la religion, permet à la personne quand même de voir son prochain d'une autre manière et de mieux comprendre son prochain. Ça, c'est ma conviction personnelle.
Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup d'intégrisme dans toutes les religions qui permettent justement pas de mieux comprendre son prochain, mais plutôt de le juger et de le discriminer. Mais... Si les religions faisaient ce que tu dis, je suis d'accord.
Non, mais l'intégrisme, bon, dans l'intégrisme même, il y a une forme de politique voilée. Il y a de la politique. Parce que l'intégrisme, ce n'est pas de la religion pure et dure. Moi, en tant que musulmane, je peux avoir une option politique et maintenant me cacher derrière la religion musulmane. Pour être intégriste, pour faire ceci ou pour dire cela. Est-ce que du coup, parmi les intégristes qu'on voit partout, on ne les voit pas dans ce qu'ils font? Est-ce que c'est de la religion pure et dure? Ou bien il y a de la politique là-dedans? C'est ça, parce qu'il faut savoir lire entre les lignes. Il faut savoir lire entre les lignes. Et encore, ça me fait extrêmement mal quand le mot, quand la religion musulmane rime avec violence. La religion musulmane n'a rien à voir avec la violence, vraiment.
Ouais, moi, quand je parlais d'intégrisme, là, il n'y a pas longtemps, j'étais à Rome et j'ai vu le Vatican. Et franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment peur. Hein. C'était assez horrible. La religion catholique qui rime avec intégrisme, avec des affiches dans tout Rome extrêmement racistes. Soutenu par la papauté, c'était terrible. Enfin bon, là je change un peu de sujet, on va écouter une petite musique et puis on va finir l'émission.
Ok, est-ce que tu peux présenter aussi cette chanson?
Ouais, alors Dobeng Naoré, c'est une chanteuse que j'ai vue en concert il y a pas longtemps, qui est assez extraordinaire et qui, dans son dernier album, à des textes aussi pour soutenir la condition des femmes et qui a une chanson aussi sur l'inceste, qui dénonce les pratiques incestueuses et qui appelle les hommes donc à respecter les femmes et les enfants.
Hold the clin te sorte de rale. Onde rale. Gana o banga de fe musi babo bobu. Waranga down the butu king banyati lagis. Aye gune don lang. Aye gune don lang. Tenglente softe de gale se toti. Chim wangarus. Tenglente softe de gale se toti. Warungaru
Moi, j'aurais juste envie de te demander un truc, Penda. C'est quel conseil tu aurais envie de donner aux féministes françaises qui nous écoutent?
Bon, de se mobiliser comme une seule femme et de continuer notre lutte. Notre lutte, c'est vraiment difficile. Il y aura toujours des embûches, mais ayons la grandeur de pouvoir vraiment traverser ces embûches et d'aller de l'avant. Et du coup, moi, j'ai juste une question à vous poser. Pourquoi l'émission s'appelle Dégenrer pour déranger?
Pop, pop, pop.
Alors, ouais, dégenrer parce que, en fait, en France, on a pas mal acquis de l'égalité des droits, mais il y a encore l'éducation genrée qui subsiste, c'est-à-dire qu'on va vraiment éduquer très différemment les petites filles et les petits garçons. Et ça fait que les femmes, même si elles ont accès à l'école, à une égalité de droits, elles n'ont pas vraiment conscience de leur force, elles n'ont pas confiance en elles, elles ont, enfin en tout cas, le genre, donc l'éducation genrée, fait souvent que les femmes gardent une position soumise dans la société, alors qu'on a conquis pas mal de droits. Enfin, nos mères ont conquis pas mal de droits. Et du coup, dégenrer, c'était pour dire, il faut en finir avec cette éducation différenciée, avec ces rôles qui sont des rôles féminins masculins qui font que les femmes sont encore soumises, sont encore moins payées, sont encore dévalorisées dans la société française. Je sais pas, toi, Mo, qu'est-ce que tu répondrais?
Ouais, peut-être par une histoire que j'ai entendue, une blague que j'ai entendue il y a pas longtemps. Et c'est l'histoire de il y a deux bébés qui naissent et ils sont encore, vous voyez, dans la maternité ou je sais pas quoi, et ces deux bébés, il y a un des deux bébés qui regarde l'autre et qui dit: ah, toi, c'est quoi ton sexe à toi, tu sais? Alors le bébé il dit, l'autre il dit: bah non, je sais pas, et toi tu sais c'est quoi ton sexe? Alors le premier il dit: bah non, attends, je vais regarder, bouge pas. Paf, il passe sous la couette, il regarde. Il revient, et là il dit: ah bah ouais, toi t'as un garçon, moi je suis une fille. Ah ouais, comment tu sais? Bah toi t'as des chaussons bleus, moi j'ai des chaussons roses. Et voilà, et du coup moi j'entends ça en fait, et je trouve que c'est une blague, c'est une petite anecdote. Et comment on peut se décider de passer des chaussons roses aux chaussons bleus? Juste parce qu'on en a envie en fait, et pas parce que ça t'est destiné. Voilà, moi j'entends ça aussi dans le dégenrement, et de pouvoir jouer avec, de pouvoir se sentir bien en fonction de ce que t'as envie toi en fait, et ce qui est important pour toi.
Ouais, je crois que l'idée de fond, c'est que, enfin en tout cas moi, mon utopie féministe, c'est qu'on soit toutes et tous considérés comme des êtres humains, et que le sexe ou nos caractéristiques sociales, ça soit une de nos caractéristiques en tant qu'être humain, et que ça nous définisse pas entièrement dans un rôle, dans une place, dans des métiers, dans des fonctions, mais qu'on puisse se dire, bah oui, c'est pas parce que on a un sexe femelle qu'on va être obligé d'être douce, d'avoir tel métier, et un sexe mâle, on est obligé de faire ci ou ça. C'est plus de dire, voilà, on a ce sexe-là, mais ça ne nous empêche pas, de, par exemple, de vouloir bricoler ou de vouloir prendre de la place en politique, ou etc., etc. Un peu comme la couleur de la peau, que ça soit juste une caractéristique biologique, et qu'ensuite on soit vraiment toutes et tous considérés comme des êtres humains à part entière qui ont le droit de prendre toutes les places dans la société.
Moi, je crois que là, nous avons un grand rôle à jouer en tant que femmes. Parce que l'éducation des enfants nous revient, et c'est au sein même des familles qu'on doit vraiment parler du dégenré. Et je viens d'apprendre beaucoup de choses, parce qu'au niveau du Sénégal actuellement, on parle du genre, on vit le genre à notre manière en tant que Sénégalaise, en tant qu'Africaine. Et ça me permet encore dans mon combat de pouvoir bien sensibiliser et de savoir maintenant que l'éducation de base même est très importante. On va encore se réorganiser une nouvelle fois pour maintenant se lancer dans cette bataille du dégenré. Vraiment, parce qu'on ne parlera plus de genre, mais de dégenrer, vraiment, parce qu'il faut dégenrer pour pouvoir aller
oui,
de
l'avant. Oui, c'est ça.
J'ai beaucoup appris à travers maintenant l'explication même du mot dégenrer.
Ouais, et ben moi, j'ai envie peut-être de finir l'émission sur quelque chose que tu nous avais dit l'année dernière, auquel je pense souvent. C'est que tu nous avais dit avec mots, surtout quand vous pensez quelque chose, il faut le dire. Et pas hésiter à le dire fort aussi devant des gens qui sont pas d'accord avec toi. Et je me souviens l'année dernière où tu parlais de l'alphabétisation en français face à des assemblées qui étaient vraiment pas convaincues au début. Et avec ton calme, avec ta force, ta détermination, ton intelligence, je trouve que tu arrivais vraiment bien à convaincre l'assemblée. Et moi, à chaque fois que j'ai une assemblée qui m'est hostile, qui se dit « Ouais, qu'est-ce qu'elle va raconter, c'est des conneries !» Je pense à toi et je me dis «
Pensez pour Penda bon. !»
Je pense à Penda, il faut arriver à dire ce qu'on pense, et quand on croit qu'on a raison, le dire vraiment.
Il faut savoir s'imposer. Voilà, c'est ça.
Ok, et ben du coup, voilà, c'est dégenré. L'émission pour déranger, justement, déranger les normes, déranger ce que des institutions ou des personnes au pouvoir décident à notre place, c'est ça. Alors du coup, ben, bonne fin de soirée et à la prochaine. Merci Penda.
Merci.
Merci.